deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques, sûrement.
Théâtrales, peut-être.
Inclassables, parfois. Écrit libre.
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 Chez vous, debout, assis, en voiture ou à vélo, laissez-vous emmener. Cette semaine, les ateliers d'Eva Luna vous propose des textes tombés du ciel.
Printemps de Maggie. L'hiver avait été doux, humide et plutôt venteux. Lara n'aimait ni le vent ni la pluie qui lui rendait la vie difficile. Elle devait trouver un abri plus confortable que celui qu'elle occupait le reste de l'année. Elle avait ses habitudes dans son quartier. Elle aimait cet immeuble avec ses terrasses accueillantes et ses habitants. Mais maintenant, il fait beau, c'est le printemps. Le soleil chauffe. Les feuilles des arbres qui, hier, pointaient à peine une ombre verte hors de leurs bourgeons, grandissaient chaque jour un peu plus. Bientôt, elles recouvriraient les branches de leur épais manteau. Bientôt, on ne verrait plus le fleuve depuis l'immeuble. Mais pour le moment, Lara pouvait profiter du beau temps et de la vue sur l'eau. Elle venait souvent au cinquième étage. Elle aimait venir s'y reposer, y trouver toujours le bon accueil et de quoi se restaurer. Été comme hiver, le vieil homme qui vivait là l'accueillait avec gentillesse. Même son chien se montrait tolérant. Quand elle était là, il se contentait d'aller s'installer le plus loin possible d'elle et de faire semblant de somnoler en la guettant du coin de l'œil. Elle savait que le vieil homme l'aurait hébergée si elle l'avait souhaité, mais elle avait besoin de liberté. Il l'avait baptisée Lara, c'était un lien suffisant. Elle n'avait plus de compagnon depuis l'hiver précédent. Quand il avait décidé d'aller vers le sud, elle n'avait pu le suivre alors. S'étant blessée, elle ne pouvait voyager aussi loin. Il avait dit qu'il reviendrait au beau jour, mais elle l'attendait toujours. Elle n'espérait plus vraiment son retour. Cette solitude la fragilisait, sa vie n'était pas toujours facile, comme cette fois pendant l'hiver où elle avait dû se réfugier dans le garage de l'immeuble, pourchassée par un sale individu qui l'avait guettée à la sortie pendant des heures. Heureusement, il n'avait pas pu pénétrer dans le garage et n'avait pas eu la patience d'attendre qu'elle sorte, poussée dehors par une habitante de l'immeuble. Cet incident s'était reproduit quelques jours après, et cette fois encore, c'était le garage et le manque de patience de son poursuivant qui l'avaient sauvée. Depuis, elle ne l'avait plus revu. Il avait quitté le quartier à son grand soulagement. Aujourd'hui, il pleuvait. Elle était préoccupée. Il faisait jour et pourtant les volets du cinquième étaient fermés. D'habitude, le vieil homme ne les fermait que la nuit et les ouvrait dès le lever du jour. Le vieil homme était-il parti? Mais il ne s'absentait jamais, pas même en été. Que faire? Elle se dit qu'il fallait d'abord attendre et patienter. S'il était parti, il reviendrait certainement. Mais c'était bizarre. Elle ne l'avait pas vu sortir. Alors, Lara se mit à paniquer. Sa vie serait trop dure s'il n'était plus là. Comment passerait-elle l'hiver sans la nourriture qu'il lui donnait? Elle finit par se raisonner et décida de s'installer en face. De toute la journée, elle ne quitta pas des yeux la terrasse du cinquième étage. Mais le lendemain matin, les volets étaient toujours fermés. Elle ne savait plus quoi penser et la panique revint. Il y avait une femme à la terrasse du quatrième. Affolée, Lara la fixa et lui adressa un appel désespéré. La femme la regarda sans comprendre et se retournant à l'intérieur de son appartement, elle s'adressa à quelqu'un que Lara ne voyait pas. « Écoute, je viens de voir une pie qui revenait de la terrasse du cinquième. Elle s'est posée sur la balustrade juste devant moi, comme si elle n'avait pas peur de moi. Elle m'a regardé fixement en poussant un drôle de cri. » Je n'ai jamais entendu une pie crier de cette façon. On aurait dit du désespoir. Je me demande si ce n'est pas la pie que le voisin du dessus nourrit habituellement. Ses volets sont fermés depuis hier. Ils sont bloqués. Il attend le dépanneur.
Retour sur Terre, texte de Lydie Bossard, lectrice Claire Dovy. Un vaisseau spatial est amarré au bord de la Voie lactée pour embarquer une dizaine de citoyens de la planète Zyklon. Une voix métallique venue de nulle part informe l'ensemble des habitants de cette planète que ces privilégiés ont été choisis en raison de leurs mérites professionnels. Leur récompense ? Effectuer plusieurs révolutions autour de la planète Terre, anéantie par une pandémie en 2020. Tous les résidents de Zyklon sont des descendants des Terriens qui avaient pu s'enfuir avant l'interdiction totale de tout déplacement. Par quels moyens avaient-ils fui ? Aucune réponse à cette question, secret des temps. Chaque voyageur a un code barre sur sa combinaison qui sera utilisé pour tous les actes qu'il accomplira durant le périple. Un robot programmé est aux commandes du module. Il ouvre les portes et active les lecteurs laser des codes-barres. Les spationautes pénètrent dans l'astronef et se dirigent vers le siège qui leur est réservé. Le plan de vol est inscrit sur une puce électronique encastrée dans le tableau de bord. Le robot reçoit l'ordre de passer sa main devant un lecteur laser pour procéder à la mise en orbite du vaisseau qui décolle, propulsé par des moteurs à hydrogène. Les occupants sont retenus à leur siège par un champ électromagnétique. Mise en orbite parfaite, les Zyklons écoutent des informations débitées par la voix métallique du robot qui leur annonce une surprise. La suprême autorité de Zyklon leur offre une escale sur le sol de leurs ancêtres, la Terre. Ils transmettent leurs remerciements à leurs dirigeants par télépathie. Le robot leur demande de rester dans leur siège. Ils obtempèrent, habitués à obéir depuis leur naissance. Puis ils ressentent un net ralentissement de la vitesse de propulsion. La procédure d'atterrissage a commencé. Une descente vertigineuse est en cours. Selon la procédure, le robot diffuse du gaz soporifique. Endormis, les voyageurs ne peuvent manifester aucune émotion qui pourrait troubler la manœuvre en cours, fort délicate. Quelques minutes plus tard, le vaisseau spatial se pose en douceur sur la planète Terre. Les Zyklons sont réveillés. Zlek, le robot, leur indique qu'ils sont autorisés à sortir pour fouler la Terre de leurs ancêtres. Les capteurs qui entourent la spatiomobile indiquent que l'air est adapté à leur système respiratoire et qu'il ne présente aucun signe d'infection. L'eau a également été analysée. Elle est potable et buvable. Le robot, Zlek, remet à chacun un sac contenant des comprimés représentant 3 repas par jour. Puis les 10 promeneurs de l'espace prennent place dans un mini-module qui les dépose à terre. La porte s'ouvre sur une végétation inimaginable. Immense arbre vert, végétation luxuriante, fleurs bigarrées dont le parfum suave et sucré les anesthésie. Le soleil est désormais une réalité pour eux. Avant de sortir à l'air libre, ils enlèvent tous leur combinaison spatiale. Zark, un jeune homme timide et peureux, bien que conditionné, codifié et verrouillé par l'organisation de Zyklon, sort le dernier. Il est habillé comme en 2020, suivant la dernière mode terrienne d'avant la grande catastrophe, vue sur des images holographiques. Zack prend de plus en plus de retard sur ses compagnons de voyage, tétanisés par la peur. Craintif, il avance à petits pas tandis que ses compagnons prennent de l'avance. Puis ses amis se rendent compte de son absence. Ils activent le système de recherche moléculaire, une puce qui leur est implantée derrière l'oreille droite le jour de leur naissance. Rien. Aucun lecteur ne réagit. Et pourquoi Zark, de son côté, n'active-t-il pas son localisateur? Trop terrifié pour y penser. Après un rapide conciliabule, ses amis décident de rebrousser chemin vers le module. Ils demanderont au robot quoi faire en une telle circonstance. Les grands ingénieurs de Zyklon, le professeur Tournesol, le distingué prof de la confrérie des sept nains, le Schtroumpf à lunettes et son livre « Qui dit tout », Géo trouve tout coiffé de son nid d'idées, ont certainement programmé la solution. Zack ne peut pas répondre parce qu'il gît sans connaissance sur le sol de la planète Terre. Il n'a pas entendu venir un animal sauvage qui l'a poussé dans le dos puis l'a plaqué au sol. Du haut de son arbre, Tarzan a vu la scène. Il vole de liane en poussant son célèbre « Oh !» L'animal n'est autre que sa guenon Cheetah, toujours prête à plaisanter et à faire des farces, la malicieuse. Zorro, qui traîne dans les parages, au cas où il faudrait régler une injustice, a entendu le cri de Tarzan et arrive sur les lieux du drame. Puis il part au grand galop jusqu'aux urgences de l'hôpital départemental, emmenant Zark en travers de la selle de son cheval noir, Tornado. Là, il est pris en charge par le docteur House, qui le diagnostique rien de grave. Lorsqu'il sort de l'hôpital, après quelques jours de repos, il est attendu par Batman au volant de sa Batmobile. Harry Potter les attend dans son château, où il a organisé un dîner pour marquer la présence de Zark. Sont invités à ce dîner Tarzan, Cheetah, Zorro, Tornado, Dr. House, Batman, mais aussi Wonder Woman. Zark ne connaît pas cette coutume qui n'existe pas sur sa planète. Il est toujours crispé sous le coup de l'agression de Cheetah. Ne pas savoir ce que sont devenus ses compagnons l'attriste beaucoup. Les convives trouvent vite une solution. Le grand détective Sherlock Holmes, qui participe au repas, accepte d'enquêter pour retrouver les amis de Zark. Mais seulement le lendemain matin. Pour le moment, c'est le repas, uniquement fait de légumes, de fruits, d'œufs, de lait, de toutes sortes. Vaches, chèvres, brebis, ânes, juments. La consommation de viande et de poisson ayant été pour toujours abolie sur Terre, depuis la grande catastrophe de 2020. La conversation est fort animée. Les questions fusent, entre autres celles de Harry Potter et Wonder Woman qui souhaitent savoir par quelle magie Zark a pu voler dans les airs pour revenir sur Terre. Puis chacun rejoint sa chambre pour se retrouver le matin au petit déjeuner. Là aussi, coutume inconnue de Zark qui a décidé de rester sur la Terre. Entouré de tous ces êtres phénoménaux, il se sent en sécurité. Lui, le garçon timide et peureux. Tous sont d'accord pour baptiser Zark d'un nouveau nom, Plusterrien. Puisque Zark a été trouvé dans la jungle, suggère Tarzan, pourquoi pas Mowgli? Tout le monde acquiesce. Bon, il est temps désormais de rejoindre Sherlock. Ce faisant, l'on voit arriver Bond, James Bond, au volant de sa célèbre Aston Martin. En alliant les muscles de James à la logique scientifique de Sherlock, Zark, Mowgli, ne tardera pas à retrouver ses amis et à pouvoir leur dire au revoir avant leur retour sur Zyklon.
Et voici en seconde partie notre série proposée par l'association SOS Discrimination et les ateliers d'Eva Luna. Écrire une fiction à partir d'un fait d'actualité qui questionne, soit un fait social, soit un fait politique qui parle d'injustice et de discrimination, un fait autre qu'un fait divers, un fait dont on ne parle pas ou peu dans les médias.
Connaissez-vous l'histoire du joueur de pipeau de Lone Land? Elle s'est déroulée il y a bien des années, dans le royaume de Lone Land, une île de l'hémisphère nord. Ses habitants ne vivaient ni mieux ni plus mal que les autres, mais ils avaient le sentiment aigu de leur différence. Ils gardaient en eux le souvenir d'un passé glorieux et prospère, et ils avaient du mal à admettre que les choses avaient tellement changé. Leur pays n'était plus un objet d'admiration et de respect pour le monde entier. Un point particulier les inquiétait. Quand ils étaient à l'apogée de leur puissance, ils avaient créé des lois réglementant les déplacements entre l'île et ses territoires conquis à travers le monde. Or, ils n'avaient pas pensé à restreindre ces dispositions aux seules personnes originaires du Loneland. Et maintenant, ils se sentaient envahis par ceux-là même qu'ils avaient autrefois colonisés. En effet, les étrangers arrivaient en masse, se reproduisaient entre eux, occupaient des quartiers entiers dans les villes, volaient le travail des Iliens, profitaient aussi des aides sociales et du système de santé. Il y avait des Noirs qui affichaient la couleur, des basanés qui jouaient sur les nuances, des Blancs qui tâchaient de passer pour des autochtones, et même des Jaunes dont on ne savait que penser, tant ils étaient discrets. Tout cela faisait que le Loneland se sentait en insécurité. Dans un royaume ordinaire, le roi se serait occupé de régler la question. Mais ce n'était pas possible dans l'île de Loneland, car le peuple lui avait jadis retiré tous ses pouvoirs pour les confier à un parlement composé de membres choisis par leur prestance et l'apparat de leur perruque. Et de ces privilèges anciens, le roi, qui au moment de cette histoire était une reine, n'en avait conservé que deux, porter des chapeaux extravagants et conduire sans permis. Bref, la souveraine ne pouvait plus rien pour son peuple, et celui-ci ne savait que faire. La situation en était là lorsque se présenta à l'assemblée un homme bien singulier, vêtu d'un pourpoint à mahêtre vert amande et de chausses pourpres. Il ressemblait à ces personnages pittoresques qui accompagnaient le carrosse royal lors des défilés. Mais sa tignasse ébouriffée et son assurance montraient qu'il n'était pas un laquais. Il s'adressa avec hardiesse aux parlementaires. Il leur affirma qu'il détenait la solution aux problèmes des étrangers et qu'il en ferait profiter le royaume si, et seulement si, on le nommait à la tête du gouvernement. Un grand tumulte suivit sa proposition. Les honorables membres de la Chambre s'étaient levés et s'interpellaient bruyamment. Invectives et bourrades furent échangées, créant une animation inédite dans ce lieu habituellement calme et compassé. Pendant ce temps, l'homme avait sorti d'une sacoche qu'il avait en bandoulière une flûte en roseau d'une belle longueur et, la tête inclinée sur son épaule droite, il se mit à jouer un morceau captivant, à la fois nostalgique et martial. Peu à peu, le silence se fit dans l'enceinte, tant cet air était puissant et suggestif. Il rappelait à tous les vertes campagnes de l'île, chères à leur cœur, la douceur de la bruine automnale, les tempêtes d'hiver où les vagues montaient à l'assaut des côtes. Cet air narrait aussi les invasions ancestrales et les féroces combats en mer à travers lesquels la nation s'était construite. Il restituait autant le brouhaha d'un pub enfumé que la quiétude d'une soirée dans un cottage et même la saveur du breuvage national. Cet air était plus qu'une évocation de leur pays. Il était leur pays. Il était le Loneland tout entier. Quand la flûte étira sa dernière note et que le joueur releva la tête, le silence était total. Les yeux des auditeurs étaient humides, mais brillaient d'une énergie nouvelle. Un premier hurrah se fit entendre, puis un tonnerre d'applaudissements ébranla la salle et fit vaciller les lustres centenaires. L'homme, de suite, fut nommé à la tête de l'île. Il ne perdit pas de temps à remercier les parlementaires. Il déclara simplement qu'il avait à se préparer et qu'il donnait rendez-vous à la nation le surlendemain, sur la place principale de la capitale. Il demanda également que l'on réquisitionnât radio et télévision pour transmettre l'événement en direct, après quoi il repartit à pied, aussi simplement qu'il était venu. Le jour annoncé, une foule impressionnante avait envahi la place du cirque. Quelques étrangers, mais surtout des Iliens, venus par curiosité. Quand le joueur de flûte monta sur l'estrade qui avait été dressée, tous purent enfin le voir et constater qu'il était bien comme on l'avait décrit, habillé de façon identique à sa première apparition. Il ne perdit pas de temps en préliminaire et annonça qu'il allait tenir la promesse faite au pays. Et il sortit de son sac un nouvel instrument, une syrinx, constituée d'un grand nombre de tubes de longueur et de matières variées. Il posa ses lèvres sur la gouttière qui reliait tous ces tubes. Le son qui sortit de la flûte était bien éloigné de la première fois. Ce n'était plus un seul air, celui qui les avait fait vibrer, mais autant d'air que de tubes. C'était comme si des langues différentes s'exprimaient, avec chacune sa sonorité particulière, son phrasé original, son énergie propre. L'ensemble donnait aux auditeurs l'impression d'une cacophonie indistincte. Et ils se sentaient pourtant traversés par quelque chose. Mais cela ne s'adressait pas à eux. Bientôt, le musicien quitta l'estrade, traversa lentement la foule, et quelques personnes se mirent alors à le suivre. Beaucoup d'étrangers présents sur la place ou venus des immeubles voisins. Le joueur de pipeau sortit de la ville et marcha vers la côte. La route se remplit peu à peu derrière lui. C'étaient des hommes, des femmes, des enfants qui l'avaient entendu sur l'un ou l'autre média. Plus il avançait et plus sa suite s'enflait de centaines, de milliers de personnes de tout le royaume. Ils étaient subjugués par ces airs qui réveillaient en eux le désir envoûtant de leur pays d'origine. Cependant, l'instrument ne portait pas assez loin pour que tous puissent l'entendre. Et le charme commença à faiblir. Alors que le joueur marchait d'un pas alerte, beaucoup ralentissaient, puis s'immobilisaient soudain, hébétés, tout surpris de se retrouver sur cette route. Ils reprenaient alors leurs esprits et repartaient d'où ils étaient venus. Le musicien arriva enfin sur la côte, jouant sans cesse ses mélodies, mais maintenant suivi par à peine 50 personnes. Là devant lui s'ouvrait un large tunnel dont on disait que sous la mer il menait jusqu'au continent. Il y entra avec la poignée d'étrangers qui le suivaient, et le son de sa flûte décrut rapidement. Une femme et deux enfants réapparurent, soudain, l'air égaré. Mais qu'avaient-ils vu? Puis la musique se tut. Et depuis ce temps, on n'a plus jamais entendu parler des disparus. Certains disent qu'ils ont fini par ressortir du tunnel et qu'ils vivent en paix sur le continent. D'autres, beaucoup plus nombreux, pensent que le tunnel les a conduits en enfer, que le flûtiste est un auxiliaire du diable. Oui, le diable l'enverrait sous diverses apparences attiser la division entre les êtres chaque fois qu'une étincelle de discorde menace d'enflammer un pays. Et ils ajoutent que même s'il échoue parfois, comme au Loneland, le diable ne cessera pas son combat tant qu'il n'aura pas atteint son but. Que chacun de nous voit tous les autres comme des étrangers. Vous venez d'entendre Le joueur de pipeau de Loneland, écrit par Henri Burkhardt, lu par Marie-Jeanne.
Romance européenne, chapitre 1. Un vague sentiment européen. Décembre 2020. Compagnie Moradi. Extrait et autres paroles du manuscrit du Breux. Texte Renan Chevillé, prise de son et montage Anne Neyens. L'Europe au balcon. L'Europe des conquêtes. L'Europe conquérante. Un bateau de conquistadors. À l'arrière, un balcon, un havre de paix pour la femme du commandant. La nostalgie du pays quitté, toujours le regard en sa direction. Devant, les soldats, des drôles enrôlés à coups de gnôle pour une solde. à condition qu'ils arrivent à ramener le bateau à bon port. La croix pour signature, la croix pour boussole, la croix comme épée, la croix comme salut. Nous voici à Lisbonne, une ville en déshérence à mon souvenir, nostalgique de sa puissance, des immeubles comme des bateaux collés les uns aux autres avec l'attente impatiente du départ. Partez, croissez, multipliez-vous, ils ont fini par avoir peur de l'eau, mais ils ont fait école. Avec des raccourcis, je recompose les temps, avec des sentiments diffus, je recolle de vagues souvenirs de manuels d'histoire. Je réveille des rêves de voyage, l'Europe au balcon, l'Europe à ses bords, les yeux braqués, fascinés par les lointains, laissant traîner son regard sur l'océan. Venez découvrir du 1er au 10 avril 2021 le mini-festival VIP du Breil à Nantes. Lecture, dialogue de théâtre, conversation avec des comédiens amateurs et professionnels, ainsi que des artistes invités, musiciens, plasticiens, traducteurs, par la compagnie Moradi. Là où le soleil se couche, là où le soleil se couche, c'est chez nous. C'est tout de même incroyable. Nous qui avons la sensation d'être au milieu, eh bien non. On est plus du côté où le soleil tombe. Est-ce que cela a une influence sur notre tempérament? Je n'en suis pas persuadé. Cependant, il y a de fortes chances que certains penchants nous viennent de cette influence du soleil. À venir se coucher chez nous, de venir se cacher chez nous, sans nous prévenir. D'à nouveau disparaître dans la nuit et de réapparaître le lendemain ailleurs, on ne sait pas où, loin de chez nous. C'est sûr qu'avec tous ces chamboulements quotidiens, nous ne sommes pas bien. On essaye de prendre l'habitude en ayant l'attitude taciturne, en se demandant si l'heure de se coucher approche, et de chercher toute la journée après quoi nous courons. Mais nous courons après le soleil, et où il se cache? Chez nous, mais nous ne le voyons pas. Normal. Il se cache. Nous voilà dans le beau drap.
Les loups trésors, il était là à quelques mots. Mais quelques vagues.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Montage, Hélène et Luc.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounets.